Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Showtime. Aujourd'hui, je vous présenterai quelques-unes des dernières actus ciné, mon avis sur Insaisissable, les sorties DVD de la semaine et l'instant focus qui s'aventure dans la spoil zone. En gros, c'est un instant focus qui risque de spoiler car je vous parlerai de la première moitié de saison de Once Upon a Time saison 3. Avant l'actu ciné, laissez-moi vous présenter Indica Island of Light. Running in the darkness, rolling back in time, following the voices howling in your mind. Under you, the frozen lake crackles till you halt. When the frosty mirror breaks, will you hear the call? Come and meet your secret band to make it to the top. Hear the sirens as they sing till the day you drop. Secret plan to make it to the top. Hear the sirens as they sing till the day you drop. Indica, dire que j'ai cru que ces demoiselles s'étaient fait connaître. Mais non, j'ai confondu à une lettre près Indila et Indica. Fail. Allez, actu ciné. La semaine dernière, je vous disais que l'actu ciné avait été chargée. Et voici l'une des grosses news que je n'avais pas pu citer. 5 séries Marvel arrivent prochainement sur la chaîne américaine Netflix. D'abord, nous aurons Daredevil, ensuite Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage. 4 séries de 13 épisodes. Puis, les protagonistes de ces séries se réuniront dans la série The Defenders qui comptera 6 épisodes. Ce qui ferait un total de 60 épisodes d'une heure. Soit environ 60 heures de programme pour ce Marvel Television Universe. Espérons que tout soit en accord avec le Marvel Cinematic Universe. Si le projet venait à aboutir et à être de qualité, Marvel deviendrait un concurrent sérieux pour DC sur le petit écran. Le deuxième Sin City, sous-titré A Dame to Kill For, n'est pas encore sorti sur nos écrans, que Robert Rodriguez et Frank Miller parlent déjà pré-production pour un troisième opus. Les ingénieurs de la monture ciné de Sin City en profitent pour annoncer que Sin City 2, après environ 10 ans d'attente, nous arrivera en salle en août de cette année. Il n'y a pas vraiment de date certifiée de précise pour la France, mais bon. Le troisième opus, qui est en cours d'écriture par Frank Miller, devrait adapter le troisième arc de la série BD The Big Fat Kill. Jurassic World trouve ses méchants. Si le duo Chris Pratt et Bryce Dallas Howard seront les héros, Irfan Khan et Vincent D'Onofrio joueront les rôles d'antagonistes. Irfan Khan incarnera le PDG de la Patel Corporation, la société derrière le nouveau parc de dinosaures, tandis que Vincent D'Onofrio sera le directeur financier de la Patel. Avec ces infos, on peut s'attendre à voir un Jurassic Park 1 2.0 où le directeur financier essaierait de profiter à fond de ce que peut rapporter les dinosaures. Ça partira en live et les deux héros viendraient sauver la mise. À moins que surprise. La 7e et dernière saison de True Blood,
True Blood
accueillera Riley Smith, l'acteur vu dans 90210, 24 heures chrono, jouera un batteur vampire. Là, j'ai pas trop compris quand j'avais noté la news. Je sais pas si c'est batteur baseball ou batteur musique. Enfin bref. Riley Smith aura droit à plus que quelques scènes en compagnie de Carrie Preston, puisque son personnage tombera sous le charme de Arlene. Cette dernière saison, qui je l'espère sera à la hauteur de mes espérances, arrivera le 1er juin prochain aux US. La news qui suit concerne l'annonce qui a fait vibrer l'internet mardi dernier en fin d'après-midi. Je parle de Batman Arkham Knight. On passe du cinéma au jeu vidéo. J'aime bien ces deux médias donc, bon, puis j'avais envie de vous en parler. Donc, Batman Arkham Knight, troisième volet et conclusion de la saga Arkham initiée par Rocksteady. Un an après les événements de Arkham City et la mort du Joker, les ennemis de Batman, Two-Face, le pingouin, Harley Quinn, s'allient pour le défaire. C'est dans un open world décrit comme 5 fois Arkham City que nous incarnerons le Chevalier Noir, qui cette fois nous mettra aux commandes de la Batmobile. Le véhicule de Batman fera partie intégrante du gameplay du jeu. Notez également que le titre Arkham Knight ne fait pas référence à Batou, mais à un ennemi inédit spécialement créé pour le jeu. La fin d'année s'annonce d'ores et déjà passionnante, car oui, sortie prévue pour le 14 octobre 2014 sur les consoles New Gen. Et maintenant, l'info en bref. Bon, dans l'info en bref, je dirais brièvement les actus que j'ai pas pu citer et les news de dernière minute, car faut dire, l'actu ciné en ce moment, ça y va. Scarlett Johansson enceinte, le tournage de Avengers Age of Ultron anticipe et prend de l'avance. Une nouvelle trilogie Matrix ? Possible ! Les frères Wachowski seraient en pleine écriture du scénario de ces trois nouveaux épisodes. Le jeu vidéo The Amazing Spider-Man 2 sortira le 2 mai 2014 sur la génération actuelle de consoles et la New Gen. Lucy Griffiths, Harold Perrineau et Charles Halford rejoignent le casting de la série Constantine. Et il y en a encore à l'appel. Bon, allez, la vie sur insaisissable, c'est parti ! Insaisissable Now You See Me en VO est un film de Louis Leterrier, sorti le 31 juillet 2013 dans les salles françaises et le 2 décembre dans les bacs. Le film est pourvu d'un casting 4 étoiles, voire 5. En effet, à l'affiche, nous trouvons Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Isa Fisher, Dave Franco, Mélanie Laurent, Morgan Freeman, Michael Caine, du beau monde. Le speech du film, Les 4 Cavaliers. Un groupe de magiciens se produisant à Las Vegas accomplissent un prodige en dévalisant une banque parisienne. Après cette incroyable finale, les 4 cavaliers annoncent que leur prochain forfait aura lieu lors de leur représentation suivante. Ce prestige attire l'attention des autorités qui se doivent d'arrêter le quatuor avant qu'ils n'accomplissent à nouveau l'impossible. Insaisissable, un film centré sur les tours de magie. Eh bien, pour cet avis, je vais essayer de le présenter comme un tour. Trois étapes. D'abord, la promesse. Le film commence avec le recrutement des 4 cavaliers par un mystérieux anonyme. À ce moment-là, il n'était pas encore le groupe qui accomplira d'incroyables prouesses. C'était de simples amateurs. Il n'était que Daniel Atlas, illusionniste, Anne Reeves, l'ancienne assistante de Atlas, Jack Wilder, prestigitateur pickpocket, et Merritt McKinney, mentaliste hypnotiseur. Du moins, il ne l'était jusqu'à ce que cet inconnu leur offre la capacité d'accomplir l'impossible. Chose qui arrivera un an plus tard. Le tour de force qu'ils ont accompli à Las Vegas promet de grandes choses à venir. À noter lors de la séquence à Las Vegas, la présence de José Garcia. Un petit rôle, mais bien interprété. On a déjà vu dans des films des rôles secondaires moins bien interprétés que ça. En parlant de jeu des acteurs, comment dire ? On jongle entre le bon et le moyen. déjà les acteurs qui campent les quatre cavaliers. Ils sont très bons. Bon, peut-être pas tous. Dave Franco qui joue Jack Wilder est un peu en deçà de ses confrères. J'ai moins s'accroché à son personnage. Vient ensuite les acteurs incarnant les autorités qui traquent les cavaliers. Mark Ruffalo et Mélanie Laurent. Mark Ruffalo, rien à redire, son personnage, le flic qui croit pas vraiment à la magie, est bien joué, normal. Mélanie Laurent, son jeu... moyen, passable. Comment dire ? Son personnage, agent d'Interpol, était intéressant, promettait nombre de choses. Mais il s'envole jamais. Là où les autres prennent de l'ampleur, on dirait qu'elle reste au même niveau tout du long du film. Et pour ce qui est de Michael Caine, Morgan Freeman, bah, ils sont fidèles à eux-mêmes. Rien à redire quant à leur interprétation. Le personnage de Morgan Freeman, parlons-en pour enchaîner sur la suite. Dylan Rhodes du FBI et Alma Drey d'Interpol se tournent vers Thaddeus Bradley afin de comprendre comment fonctionnent les cavaliers. Thaddeus, c'est Morgan Freeman. Donc, Thaddeus retourne les tours de magicien pour révéler l'invisible au regard des gens. Et il en fait de même avec le prodige des quatre cavaliers, qui n'en est pas réellement un. Dylan et Alma comprennent alors qu'une cinquième personne apporte son soutien au quatuor. Et vient le tour, la troisième étape de ce tour de magie. Un tour qui joue autant sur les futures prouesses du groupe de magiciens que sur l'identité du cinquième cavalier. C'est à ce moment que le spectateur devient acteur. On lui offre la possibilité de trouver, de comprendre le pourquoi du comment de ce grand spectacle qui se présente à lui. Un tour qui trouve sa finalité dans le prestige, le grand final du tour, celui qui révèle l'aboutissement de ce grand tour de près de 2h10. Le spectateur sera-t-il bluffé ou déçu ? Ça fait beaucoup de tours, mais insaisissable en vaut le détour. Jeu de mots pourri. Plus sérieusement, des longueurs dans le film, et il n'y en a pas réellement. On se sent transporté dans le film, l'action. La musique de Brian Taylor y joue aussi pour beaucoup. Pour autant, comme je l'ai laissé entendre, à l'issue du film, on peut en sortir ébahi, déçu, ou bien les deux. Car ce qui a pu plaire pour un, peut avoir déconcerté pour un autre. Allez, passons à l'instant 4 conscience, car même si les points positifs peuvent être nombreux, il n'est pas impossible que je descende le film. En plus, un film de magicien addictif. Quand on l'a vu, il est dur de ne pas réappuyer sur replay. Un casting en or, la musique de Brian Taylor et le prestige, la finalité du film que l'on ne voit pas venir. En négatif, certes le film peut paraître addictif, mais il peut être redondant pour certains. Mélanie Laurent, j'aime beaucoup cette actrice, mais là, c'est plat, le film aurait presque pu se passer de son rôle. Un prestige, une finalité qui ne plaira pas forcément à tous. En conclusion, insaisissable. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir lorsqu'il est sorti en salle. Le synopsis du film m'avait intrigué. Vraiment, il a tout pour attirer l'attention. Histoire, casting, musique, univers aussi. Les films qui jouent sur la magie réelle, il n'y en a pas énormément, à ma connaissance. Insaisissable est à voir comme un tour de magie. Il y a l'enquête policière que l'on voudra démêler, mais le réel tour du film est d'en trouver la finalité. Avoir le prestige de comprendre Insaisissable avant son dénouement et dans un sens, une victoire sur la magie. Malheureusement, l'issue peut plaire comme déplaire. Pour ce qui est de mon cas, je suis quelque part partagé entre fascination et déception. Pourtant, je ne déconseille pas le visionnage de ce film qui mérite que l'on s'y attarde. Et puis, regardez bien. Plus vous vous approcherez, moins vous en verrez. Peut-être vous laisserez-vous charmer.
Approchez-vous. Plus vous croirez en voir... vous vous ferez avoir.
Mesdames et messieurs,
pour notre dernier tour,
nous allons cambrioler une banque.
À trois, vous allez être téléportés à travers l'espace et le temps à l'intérieur de votre banque à Paris.
Un, deux, trois.
Tout le monde dans cette salle a connu des difficultés.
Certains ont perdu leur maison, leur voiture. Et ce soir,
nous allons vous restituer une partie de votre argent.
Merci à tous.
Nous sommes les quatre cavaliers.
Votre banque n'était qu'une diversion, pendant qu'ils accomplissaient leur vrai tour.
Une diversion qui m'a coûté 140 millions de dollars.
Un bon tour de magie, c'est toujours très spectaculaire.
FBI ! Les mains en l'air !
J'ai pas bien entendu, vous dites que des magiciens ont dévalisé une banque ?
Vous allez vous faire avoir.
Comme on dit dans le métier, vous n'avez rien dans les mains,
rien dans les manches.
À moins que le FBI et vous et vos amis d'Interpol, vous croyez vraiment aux formules magiques.
Premier devoir du magicien, toujours être plus malin que tout le monde.
1, 2, 3, et...
comment ils ont fait? Il suffit de dire le mot magique.
Il y a un an, ils faisaient leur numéro dans la rue.
Aujourd'hui, ils montent des coups incroyables et ils ne gardent même pas un dollar pour eux.
Vous êtes conscient qu'il s'agit d'un jeu. Un jeu à l'échelle planétaire. Las Vegas n'était qu'un début. Ce tour a été conçu il y a très longtemps.
On a affaire à beaucoup plus fort que nous.
On est tous là pour la même raison.
On ne peut plus reculer maintenant.
Démasquez-les et liquidez-les.
Quelle que soit cette grande illusion, je pense que ce qui va suivre sera vraiment époustouflant. Regardez bien. Plus vous vous approcherez, et moins vous en verrez.
Les sorties DVD. Cette semaine, dans les bacs, vous pourrez trouver « Il était une forêt » de Luc Jacquet avec Francis Allais, Michael Pipineski, je ne sais pas si j'ai bien dit le nom, mais bon, enfin... Ensuite, vous pourrez trouver « Malavita » de Luc Besson avec Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, « Inside Llewyn Davis » des frères Cohen avec Oscar Isaac, Justin Timberlake, et « Un château en Italie » de et avec Valeria Bruni Tedeschi. Et aussi, la saison 1 de Broadchurch, la saison 1 de Master of Sex et la saison 6 de Mad Men. Allez, focus sur la mi-saison 3 de Once Upon a Time. Attention, entrez dans la spoil zone. Souvenez-vous, je vous en ai parlé dans le Showtime spécial Contes de Fées diffusé aux alentours de Noël. Je veux parler de Once Upon a Time. Once Upon a Time, série télé créée par Edward Kitsis et Adam Horowitz. Elle est diffusée depuis octobre 2011 aux USA et depuis décembre 2012 en France. Depuis cet avis général sur la série, la saison 3 a avancé. Bon, j'ai pas pu avancer en même temps. Mais aujourd'hui, c'est chose réparée. J'ai rattrapé mon retard sur la série. Et j'en ressentais le besoin de vous en parler. Cependant, pour bien le faire, il risque d'y avoir quelques spoils. Donc, si vous regardez la série et que vous ne voulez pas vous faire gâcher certaines surprises, avancez l'émission de 5 minutes environ, tout au plus. Auquel cas, écoutez, venez pas vous plaindre après. La saison 3 de Once Upon a Time, OUAT, reprend là où la saison 2 s'était arrêtée. Henry a été enlevé par Owen et Tamara. Les deux se sont enfuis vers Neverland, le pays imaginaire. Une équipe improbable se réunit alors pour sauver Henry. Emma, Snow, Charming, Regina, Rumpel et Hook font voile sur le Jolly Roger vers Neverland. Au moins, l'objectif de la saison 3 est bien exprimé. Sauver Henry. On est directement dans l'action. Le premier épisode de cette troisième saison sert à poser une base importante, celle de la coopération. En effet, vous voyez l'équipe qui part en mission de secours ? Ben, ça pourrait ressembler au premier abord à une équipe de bras cassés, car les tensions sont palpables. La méchante reine, Regina, et Snow White, Blanche-Neige, faire équipe. La bonne blague, Hook, crochet qui a perdu sa main et son amour à cause de Rumpelstiltskin, œuvrer avec lui. Ça ressemble à une bonne blague, hein, au début d'une bonne blague sur le coup. Mais heureusement, sitôt arrivé sur l'île, ils décident de coopérer à contre-cœur, mais ils le font pour le bien d'Henry. Bon, Rumpel, lui, il va faire son tralala dans son coin dès qu'il arrive. Enfin, chose bien, l'arrivée sur l'île permet de supprimer les deux boulets de la saison 2, Owen et Tamara. Deux personnages avec le charisme d'une huître. Pourtant, il y avait l'idée. Une organisation de normaux qui cherche à éliminer la magie. Imaginez le potentiel qu'aurait pu avoir une guerre entre normaux versus comtes. Mais non. Le chef de ces deux boulets, qui ont flingué la saison 2, faut le dire, n'est autre que Peter Pan. Eh oui, ici, Peter Pan est mi-sang. Saluons la prise de risque des scénaristes. Pour ce qui est du personnage, au début, j'ai eu du mal avec l'acteur et son interprétation. Au fur et à mesure que l'intrigue avance, on s'habitue au personnage. Enfin, un vrai méchant dans OUAT. Se joignent à Pan de nouveaux personnages. Les enfants perdus, Ariel, la petite sirène, la fée Clochette et d'autres. En majorité, introduits également grâce à des flashbacks plus ou moins habiles. Des flashbacks qui approfondissent le passé des personnages que l'on connaît déjà. Mention à l'épisode 5 qui nous permet d'en apprendre davantage sur Hook. Hook qui gagne en saveur, en profondeur, tout comme Rumpel et Regina. Car oui, il faut le dire, les personnages de Emma, Charming et Snow peuvent être chiants avec leur mentalité à deux balles. Soit c'est blanc, soit c'est noir avec il n'y a pas de gris. Enfin, moins pour Emma qui est plus ancrée dans la réalité. Le couple Captain Swan. Comprenez par là une romance entre Hook et Emma. Ça montre bien que Emma a un côté sombre et qu'il est développé. Au moins, les scénaristes s'en servent. Pas comme Snow qui redevient blanc comme neige cette saison. Je veux la voir méchante, moi. Enfin bref, la saison 3 continue son cours. Retour de Neil, quête pour sauver Henry qui continue. Nos héros tous réunis face à face avec Peter Pan. Surprise et révélation. Bon, niveau surprise et révélation, ne vous attendez pas à des choses transcendantes. Les scénaristes se sont contentés du minimum syndical. Et c'est pas plus mal. Ils se sont reposés sur leurs acquis et ça leur a permis de nous livrer une mi-saison 3 intéressante. Heureusement. Car après le massacre de la saison 2, beaucoup, moi y compris, étaient prêts à abandonner le show. Pour terminer sur cette mi-saison 3, l'épisode final conclut très bien l'arc Neverland Peter Pan. On se serait quand même passé des flashbacks de l'épisode qui servent à rien. Après, bon, la niaiserie, il y en a, mais on reste dans l'acceptable. J'ai vraiment bien aimé cet épisode 11 que j'ai trouvé touchant. On peut reprocher au Cliff d'être trop expéditif. Il aurait mérité une petite séquence en plus pour nous mettre l'eau à la bouche. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, je serai au rendez-vous lors de la reprise de la série. Et je souhaite de tout cœur que Once Upon a Time continue sur cette lancée. Continuons de rêver. Voyager avec Nightwish. Un groupe qui, je trouve, correspond à la féerie, magie que nous transmet Once Upon a Time. Pour vous, Darkest of Wonders. Darkest of Wonders de Nightwish, interprété par la nouvelle chanteuse du groupe, Floor Jensen. Si j'avais à faire une vidéo sur cette mi-saison de Once Upon a Time, c'est cette musique que je choisirais. Allez, c'est l'heure de vous laisser. Cet épisode de Showtime touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos suggestions et de vos avis pour la suite. En vous remerciant pour m'avoir écouté, et un grand merci à Marie, à la technique et à Radio Larzac pour l'enregistrement. Je vous dis à la prochaine. Thank you.